Merci à Josias. Donc en effet, donc la page 777. Et avant de lire le passage, je vais prier. Prions. Merci à notre bon Père Céleste de ce que tu parles. Et tu as parlé par ton Saint-Esprit au fil des siècles. Les prophètes ont été poussés par ton esprit, par ton souffle, pour nous donner tes paroles. Tes apôtres ont écrit ces lettres sous l'inspiration de ton esprit. Et ton esprit a fait sa demeure en nous. Ton esprit illumine nos cœurs, notre pensée. Et Père, nous voulons ce matin être conduits, être enseignés par ton esprit pour connaître ta pensée, pour être transformés par ton esprit, pour ressembler de plus en plus à ton Fils. Et notre Père, nous te demandons toutes ces choses au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Donc 1 Thessaloniciens 4, et on va lire à partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin, frères et sœurs, qu'on vous écrive à ce sujet. En effet, vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine fondra sur eux, comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils n'y échapperont pas. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. En effet, ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, enfilons la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayons pour casque l'espérance du salut. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Alors, bien sûr, c'est le mois d'août. Nous qui sommes ici ce matin, nous ne sommes pas ou nous ne sommes plus en vacances. Mais pour nous tous, je pense que ce moment, l'été, nous sert de pause. Nous faisons moins de choses. Même à l'église, on fait moins de choses, on se repose. Mais c'est aussi un moment pour réfléchir à la suite, pour réfléchir à la rentrée. On recule un peu pour mieux sauter. Alors, qu'est-ce que l'idée de la rentrée vous inspire? En fait, peut-être que vous ne voulez pas y penser. La rentrée rime avec le travail, même peut-être avec la lente arrivée de l'hiver. Mais moi, quand je pense à la rentrée de l'Église, ici dans quelques semaines, je pense aussi à l'arrivée de notre deuxième pasteur, Keith. On a parlé de beaucoup de projets et je pense que c'est réjouissant et motivant. En tout cas, notre perception de l'avenir est très puissante. Si notre perception de notre avenir est négative, si on pense que tout va à volo, tout s'empire, qu'est-ce qui se passe? C'est la démotivation qui s'installe. On se lève le matin avec une sensation de fatigue, d'ennui. Mais si en revanche nous pensons que notre avenir nous réserve de belles choses, qu'il y a de belles choses à réaliser, à construire, à vivre, on se lève le matin dans la joie. Et la motivation est au rendez-vous. Alors dans cette section de la première lettre de Paul à l'église de Thessalonique, l'apôtre Paul se focalise sur l'avenir, notre avenir, l'avenir du croyant. Alors manifestement, il répond à quelques malentendus. C'est Timothée qui a été en visite chez eux, qui a dû revenir avec leurs questions. Et on sait aussi de sa deuxième lettre, celle qu'il va écrire plus tard à l'église de Thessalonique. Cette question de l'avenir les tracasse, il y a des soucis là. Et Paul ne lâche rien, il insiste là-dessus, il va revenir là-dessus dans sa deuxième lettre, parce qu'il sait qu'une bonne compréhension de l'avenir, de notre avenir, est capitale, vitale, si au présent nous allons vivre, comme nous avons vu la semaine dernière, pour plaire à Dieu. Une bonne compréhension de notre avenir conduira à de bons fruits, mais une mauvaise compréhension de notre avenir conduira inéluctablement à de mauvais fruits. Et il faut que nos cœurs soient imprégnés de cette bonne connaissance, ou plutôt de cette espérance réelle. Et il faut que nos cœurs s'y attachent et que cette espérance nous fait lever le matin, même dans les moments les plus difficiles, les moments les plus tristes, les plus accablants. Il nous faut cette espérance dans le cœur si on va tenir le cap, si on va garder le cap. On va voir dans les versets 13 à 18 du chapitre 4 que notre espérance est bien fondée. C'est notre premier point ce matin. Notre espérance est bien fondée. Et ensuite, dans la deuxième section, donc les versets 1 à 11 du chapitre 5, on va voir que notre espérance se vit au présent, se voit au présent et se vit au présent. Donc on va commencer avec la première section au chapitre 4. Notre espérance est bien fondée. Alors, très clairement, il y a un certain flou chez les chrétiens de Thessalonique concernant cette espérance. Au verset 13, l'apôtre Paul parle de l'ignorance et aussi de la tristesse. Et Paul ne veut pas que les croyants, face à la mort des leurs, soient accablés par la tristesse. Cette tristesse typique des non-croyants. Alors, Paul ne dit pas exactement pourquoi ils encourent ce risque-là. Mais la suite du passage, la suite de ce qu'il dit, laisse entendre qu'un doute s'est installé quant au sort spirituel des chrétiens qui décèdent avant le retour de Jésus-Christ. Les Thessaloniciens semblent penser que ces chrétiens-là sont peut-être perdus, qu'ils ne seront pas sauvés. N'oublions pas qu'ici on est au tout début de l'Église, juste quelques années après la résurrection et l'ascension de Jésus. Et les chrétiens sont dans l'expectative de son retour. Ce n'est pas si fou que ça de penser que si on meurt avant qu'il ne revienne, bon, on a raté l'événement et on risque de tout perdre. D'où le risque d'une tristesse accablante, une tristesse sans espérance, comme on voit au verset 13. Et Paul, il veut clarifier les choses pour que l'espérance des chrétiens de Thessalonique soit claire, soit forte. Et cette espérance forte, c'est ce qui nous distingue aussi, nos amis qui ne croient pas en Christ. Nos amis athées ou agnostiques pensent qu'il n'y a rien après la mort. Il n'y a que le néant, le manque d'existence. Enfin, et la tristesse face à la mort est donc bien compréhensible. Nos amis musulmans ne savent pas comment leur Dieu les accueillera. Il y a incertitude. Même les croyances de nos amis catholiques leur donnent peu d'assurance quant à leur avenir avec Dieu, d'où la pratique de messe pour les morts. Mais selon l'apôtre Paul, face à la perte d'un frère ou d'une sœur en Christ, notre deuil, quoique réel et douloureux, peut être imprégné d'une espérance forte. Oui, on est triste, c'est normal, mais pas sans espérance. Alors pour fortifier cette espérance, qu'est-ce que Paul fait ? Il veut leur donner une juste connaissance. et une connaissance qui dissout et qui bannit la peur. Il pose d'abord un principe fondateur au verset 14, et ensuite il donne une explication de ce principe au verset 15 à 17. Et on va voir au verset 17 qui nous rappelle aussi la grandeur de notre espérance. Alors, il leur a déjà donné de l'espoir au verset 13, on ne le voit pas dans notre traduction de la Bible, mais dans le grec, la phrase « ceux qui sont morts se lit ceux qui dorment ». Et ça nous rappelle un peu la fois quand Jésus a ressuscité la fille de Jaïrus, ce leader de la synagogue. Il a expliqué à la foule qu'elle n'était pas morte, mais qu'elle dormait. Ceux qui meurent en Christ et ont mis la confiance en lui, dorment en quelque sorte. Oui, corporellement, ils sont morts. Spirituellement, ils sont auprès du Seigneur, mais ils dorment dans l'attente de la résurrection. Mais c'est au verset 14 qu'on voit le principe qui change tout. En effet, si nous croyons que Jésus est mort, qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, qui dorment. Et le cœur de notre espérance, c'est le cœur de l'Évangile. Jésus est mort avant de ressusciter. Jésus est passé par là. Parce que Dieu, notre Père, a vraiment ressuscité Jésus d'entre les morts, un événement qui a bien eu lieu dans l'histoire, dans l'espace, dans le temps, il en découle, c'est logique, que Dieu, notre Père, par Christ et avec Christ, viendra chercher, viendra reprendre ceux qui meurent en Christ, ceux qui sont attachés à Christ par la foi. La mort ne pose aucun problème pour Dieu. Si Dieu ne ressuscite pas ceux qui sont à son Fils, qui lui appartiennent, qui sont attachés à lui par la foi, à quoi est-ce que la mort et la résurrection de Jésus servent au juste? Quand on se fait baptiser, quand on nous fait plonger dans l'eau pour symboliser notre mort avec Christ, la mort de notre ancienne vie rebelle, on ne nous laisse pas dans l'eau, mais nous sommes ramenés à la surface, comme pour symboliser cette résurrection, quand Jésus viendra nous chercher. Dieu nous reprend. Est-ce que vous croyez que Jésus est mort sous Ponce Pilate il y a 2000 ans? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous croyez que le troisième jour, Dieu l'a ressuscité, l'a ramené d'entre les morts, qu'il est vivant aujourd'hui? Si telle est votre foi, c'est tout aussi logique de croire qu'il ramènera d'entre les morts, ceux qui dorment en Christ, attachés à Christ, unis à Christ. Dieu va finir le travail qu'il a commencé en Jésus. Ensuite, Paul commence à leur donner quelques détails de plus pour expliquer comment tout ça va se passer. Au verset 15, Paul nous explique qu'il ne fait que reprendre l'enseignement de Jésus lui-même, le Seigneur lui-même. Et en effet, on retrouve cet enseignement dans les évangiles, par exemple dans Matthieu chapitre 24. Quand Jésus revient, ça sera clair aux yeux de tous. Ça sera un événement cosmique, audible aux oreilles de tous, pas devenu en cachette. Verset 16, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Cette résurrection corporelle aura bien lieu pour les deux, ceux qui sont encore en vie, ceux qui sont déjà morts. Ailleurs, c'est dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de cette résurrection corporelle en la comparant à une semence plantée dans la terre, comme une semence plantée dans la terre, qui a une sorte de corps, et la plante qui ressort plus tard, qui a un autre type de corps. Qu'on soit vivant ou qu'on soit mort en Christ, en retour, on sera tous transformés. On aura tous ce nouveau corps. Quand Jésus vient nous rassembler, quand il vient rassembler les siens. Ce mot « enlevé » renvoie à l'idée d'être pris. Christ va venir nous prendre pour que nous montions à sa rencontre. Et Paul termine sa phrase en disant « Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voici notre espérance. elle est centrée sur une personne, sur la rencontre avec Jésus. On va à sa rencontre et on sera avec lui toujours. Notre espérance n'est pas tant dans l'espérance d'une nouvelle vie ou d'une nouvelle création, mais l'espérance d'être avec lui, toujours avec Jésus, dans la présence de notre bon Père céleste. Nous sommes comme des orphelins, promis à l'adoption, adoptés par un couple. Nous attendons non pas en premier lieu la nouvelle maison, les nouveaux parents, cette vie familiale. Nous attendons le Seigneur pour être avec lui, dans sa présence et dans la présence de notre bon Père céleste. Et c'est là qu'il y a une vraie consolation. Être avec celui que nous aimons, celui qui nous a aimés le premier, celui qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir, pour donner sa vie, pour nous libérer. Notre bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis bien pécheurs. En effet, Jésus est celui, on l'a vu au chapitre 1, qui nous délivre de la colère à venir parce qu'il est mort à notre place. C'est lui qui a satisfait la justice de Dieu pour nous en prenant notre peine à notre place. Être avec lui. En quelque sorte, c'est le refrain de la promesse de Dieu dans toute la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. C'est le refrain du Dieu qui fait alliance. Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. Je serai avec toi. Parce que nous avions été exclus de sa présence, c'est Genèse chapitre 3. Nous étions aliénés de lui, loin de lui, mais en Christ, par Christ. On a été réconciliés avec Dieu. Et cette réconciliation prendra sa forme la plus totale, la plus parfaite, dans ses retrouvailles avec Christ, dans cette rencontre avec lui. Paul veut fortifier notre foi ce matin. Alors peut-être toute cette idée de retrouvailles dans l'air, toute cette idée d'une résurrection corporelle vous semble un tant soit peu farfelue. Disons-le franchement. Ce que nous évoquons ici est quand même extraordinaire. On a peut-être du mal à nous le représenter. Est-ce que nous suivons là une simple fable, un mythe, une histoire, une belle histoire conçue pour nous aider à faire oublier la déprime de la mort? Est-ce que nos amis athées n'auraient pas raison? Est-ce que ce n'est pas plus raisonnable de croire que tout s'arrête à la mort? Non, la raison, au contraire, nous fait revenir au matin de Pâques. Comment expliquer le matin de Pâques sinon par la résurrection corporelle de Christ? Plus on analyse cet événement, plus on analyse ce qui s'est passé, les témoins, ce qui a été dit, ce qui s'est fait par la suite, la seule explication raisonnable, à mes yeux, c'est la résurrection corporelle de Christ. Et selon Paul, verset 14, « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. » Du coup, notre espérance est bien fondée. Que nous dormions ou que nous soyons en vie quand Jésus revient, c'est sûr, il nous prendra pour être avec lui. Voici mon avenir et le vôtre si vous avez mis votre confiance en Jésus. Voici notre avenir. Mais presque 2000 ans se sont écoulés depuis que l'apôtre Paul a écrit ces mots. Bien des générations chrétiennes ont vécu et sont mortes. Et on peut se dire, est-ce que ça vaut la peine de penser au retour de Jésus? Ça fait quand même 2000 ans. Comme Jésus dans Matthieu 24, Paul, après avoir évoqué le fait du retour de Jésus, parle ensuite du moment. Nous sommes à notre deuxième section pour ce matin. Notre espérance se vit au présent. Paul n'a que passé très peu de temps à Thessalonique avant que la persécution ne l'ait obligé à partir. Mais manifestement, il avait quand même eu le temps de parler du retour de Jésus parce que ça fait partie de l'évangile de base, le retour de Jésus. On le voit au verset 1 du chapitre 5. En ce qui concerne les temps et les moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive à ce sujet. Paul a déjà parlé de ces choses. Alors le fait est que nous ne savons pas quand Jésus va revenir. Bien des sectes, bien des groupes avec un faux évangile ont cru pouvoir deviner, prophétiser peut-être le moment du retour de Jésus. En 2001, j'étais aux États-Unis et j'ai vu sur des grands panneaux publicitaires au bord des routes des placards qui annonçaient la fin du monde et le retour de Jésus. Et c'était prévu pour le 21 mai 2011. Le monsieur qui sponsorisait ça, qui a investi beaucoup d'argent là-dedans, Harold Camping, avait fait énormément de calculs mathématiques avec des chiffres dans la Bible. Mais il avait tout faux parce que, comme Jésus, Paul nous explique que le jour du retour de Jésus, ce jour du Seigneur, l'attente de l'Ancien Testament, ce jour du Seigneur, viendra comme un voleur dans la nuit. En Matthieu 24, Jésus dit dans un verset qui nous surprend un peu que seul le Père connaît ce jour. Même le Fils ne le connaît pas. En Actes 1, verset 7, Jésus dit que le Père a fixé ce jour selon son autorité. C'est lui qui renverra son Fils au moment de son choix. Alors un voleur dans la nuit vient forcément quand on ne s'y attend pas. Tout est noir et tout d'un coup quelqu'un est là. Moi, je n'ai jamais eu cette expérience-là, mais quelqu'un que je connais a fait cette expérience il y a quelques semaines. Sa femme a entendu un bruit dans la nuit. Elle a entreaperçu un homme dans la cuisine en bas. Le mari, cet ami, est descendu en bas pour voir ce qui se passait. Et un homme venait de charger énormément d'affaires de cette famille dans la voiture de cet ami, parce qu'il avait retrouvé les clés de la voiture à l'entrée sans doute. Et cet ami et sa femme sont sortis dehors pour arrêter la voiture parce qu'il était là. Il n'était pas encore parti, le voleur. Mais le voleur est parti en vitesse en voiture. Mais malheureusement pour le voleur, il s'est trompé de direction et la rue a été une sans issue. Il a dû faire demi-tour. Cet ami a appelé la police. Et la police a pu attraper le voleur. En fait, la police était stupéfaite parce que c'est assez rare d'attraper un voleur en flagrant délit comme ça. Une telle surprise est forcément une mauvaise surprise. Dans la nuit, un voleur. Paul dit que ceux qui se voient la face et pensent que le monde va continuer comme si de rien n'était, ceux qui crient paix et sécurité, ils vont avoir une mauvaise surprise. Il compare leur surprise au moment du début des contractions, les douleurs d'une femme enceinte. D'habitude, ces douleurs-là cèdent après à la joie, à la naissance d'un bébé. Mais Paul n'a pas la joie en vue ici, c'est plutôt la terreur du jugement. Mais Paul nous compare positivement à ceux pour qui sa venue sera une mauvaise surprise. Versets 4 et 5. « Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Certes, nous ne connaissons pas non plus le jour de sa venue. Je pense qu'on sera surpris lorsque Jésus revient. Et ça sera la bonne surprise. Ça sera comme un enfant qui est surpris par le retour de son père militaire revenu à l'improviste d'une mission en Afghanistan ou au Mali. Ah, la joie, papa est là. Nous appartenons à Christ. Il est notre Seigneur. Et par grâce, en Jésus, nous sommes devenus des enfants du Père. En Jésus, nous ne craignons plus la condamnation. Parce que Jésus a pris cette condamnation à notre place. Il a purgé la peine à notre place. Et c'est pour ça que nous pouvons aimer la lumière de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. Nous pouvons aimer sa lumière, sa sainteté. Nous n'avons plus à nous réfugier dans les ténèbres. Du coup, on peut attendre ce jour avec impatience, avec soulagement. Et notre attitude doit être radicalement différente de ceux et celles qui ne connaissent pas le Seigneur. Et là, Paul commence à nous montrer que notre perception de notre avenir change bien notre manière de vivre. Nous vivons sachant que ce jour vient, le jour de la bonne surprise vient, le jour des retrouvailles vient. Et qu'est-ce que nous faisons? Verset 6. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Jésus, si on devait revenir dans Matthieu 25 et Matthieu 24, a illustré ça en parlant des 10 jeunes filles et leurs lampes. Il fallait veiller, être prêt pour l'arrivée du marié. Et Jésus a dit aussi dans Matthieu 24, « Heureux le serviteur que son maître à son arrivée trouvera occupé à son travail. » Oui, il s'agit d'être sur le qui-vive, Jésus revient. Mais pas en pensant à ça tout le temps. Ah, est-ce qu'il va venir aujourd'hui? Non, c'est plutôt en faisant aujourd'hui ce qui lui plaît. Pour ne pas être rendu honteux le jour de sa venue, en vivant aujourd'hui pour lui plaire, comme on a vu la semaine dernière. L'ivrogne, donc il compare notre attitude à un ivrogne, lui sombre dans les ténèbres. Lui, il est loin d'être alerte. Lui n'est pas maître de ses mouvements. Il ne travaille pas. Il essaie d'oublier la réalité. Il vit pour le moment. Sans doute on peut faire ça de bien des manières. Mais le croyant n'oublie pas la réalité. Le Seigneur revient. Peut-être aujourd'hui. Ça sera le jour de la bonne surprise. Et du coup, on a envie de lui plaire, de vivre aujourd'hui pour lui plaire, pour être trouvé en train de faire des choses qui lui plaisent. Au verset 8, Paul revient à ce qui plaît au Seigneur. Il a déjà mentionné au chapitre 1. Et c'est ce que les Thessaloniciens font déjà. Ils parlent de la cuirasse de la foi et de l'amour et le casque de l'espérance. La foi, l'amour et l'espérance. Voici ce qui typifie la vie chrétienne, la vie chrétienne fidèle. Au chapitre 1, Paul a parlé de l'œuvre de leur foi. Sans doute cette foi qui annonçait Christ aux autres. Cette foi qui s'accrochait à Christ en bien des difficultés. Il a parlé aussi de l'œuvre de leur amour. On a vu ça aussi la semaine dernière. Les Thessaloniciens avaient appris de Dieu lui-même comment aimer leurs frères et sœurs. Paul lui-même leur a donné un modèle de service, d'amour sacrificiel. Il les a aimés comme une mère et comme un père. Et cette espérance s'accroche à Christ et se languit de ce jour de rencontre avec lui, de cette vie avec lui. Quand le maître revient, il veut voir cette foi à l'œuvre. Il veut voir cet amour qui se donne de la peine et cette espérance en lui, malgré peut-être des circonstances bien difficiles. Alors, qu'est-ce qui doit changer dans nos vies, peut-être dans nos priorités, dans notre quotidien, notre manière de travailler, notre manière de vivre en famille? Si on veut être surpris de manière positive par le retour de Jésus, où est-ce que cette foi fait défaut, cet amour? Où est-ce que cet amour est devenu fade? Mais ce n'est pas la crainte qui va nous motiver. Nous pouvons veiller la venue de notre Maître. On peut anticiper ce jour avec joie, avec soulagement. Parce que comme le verset 9 nous l'explique, l'accueil de Dieu ce jour-là ne dépend pas de la quantité de nos œuvres, ou la grandeur de notre foi, la grandeur de notre amour, la grandeur de nos mérites. Et on voit ici que l'accueil, ce jour-là, nous a déjà été acquis par Jésus-Christ. Verset 9, en effet. Et là, Paul nous donne la motivation. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut, non pas nous-mêmes, mais par notre Seigneur Jésus-Christ. Comment ? Qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Parce que tout est par grâce. Tout est par Christ, par lui seul. C'est Dieu qui, dans sa souveraineté, qui en a décidé. Il nous a destinés, non pas à la colère, mais au salut. Il a donné son Fils qui est mort à notre place. Mort pour que nous puissions avoir cette vie au présent, pour lui plaire, et cette vie dans l'éternité. Jésus a pris cette condamnation pour que nous puissions connaître le pardon et l'accueil, l'adoption de notre Père. Du coup, on peut vraiment attendre ce jour avec joie, ce jour de consolation. Ce jour sera vraiment une bonne surprise. Ce jour est certain et ce jour sera certainement une bonne surprise. Alors pour terminer, j'aimerais juste attirer votre attention sur l'application que Paul lui-même nous donne dans les deux sections. Je parle là du verset 18 du chapitre 4 et le verset 11 du chapitre 5. Encouragez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et c'est pourquoi encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. Paul est conscient que cet encouragement, cette fortification, cette édification, fortification de l'espérance, nécessite l'implication de chacun. Il ne dit pas « relis tout simplement ce que je vous ai écrit », même si ça c'est aussi une bonne chose à faire. Mais il nous incite tous à faire écho, à réverbérer ces paroles entre nous, dans les situations difficiles, peut-être face à la mort d'un frère, d'une sœur en Christ, face à la maladie, face à une situation qui rend la vie pénible. Nous avons une espérance. Cette espérance est fondée. Et cette espérance, c'est notre rencontre avec Christ, pour être avec lui pour toujours. Et on est de nature oublieux. Tragiquement, on oublie la grandeur de notre salut. On va quitter cette salle, on va partir demain matin au travail, dans les soucis. On oublie parfois que le meilleur nous attend. Et on est parfois accablé par la tristesse ou accablé par des soucis. Et on omet de méditer sur cette vérité. Le meilleur vient. Le jour de la bonne surprise vient. Ce jour de rencontre avec Christ. Encouragez-vous les uns les autres par ces paroles. Je vous invite à la prière. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te louer pour ta grâce, ta faveur totalement imméritée. Nous étions loin de toi, hostiles à toi, hostiles à ta loi. Nous faisions ça nous semblait bon, on vivait pour nous-mêmes. Mais tu nous as donné ta parole, tu nous as donné le message de Jésus, de celui qui a pris notre peine à notre place, pour que nous puissions être délivrés de ce jour de colère, pour que ce jour ne soit pas un jour de colère pour nous, mais un jour de retrouvailles. Et notre bon Père Céleste, nous sommes conscients que c'est que par la grâce, c'est que grâce à l'œuvre de Christ, pour que toute la gloire te revienne. Père, nous voulons en effet te louer ce matin, te remercier pour cette espérance. Père, dans ta grâce, nous voulons te demander aussi d'alimenter notre foi. Tu vois que parfois dans les moments difficiles, ou parfois dans les moments moins difficiles, quand les choses semblent aller bien, quand il y a la prospérité, on ne pense plus à cet avenir. On pense qu'on a déjà ce qui est le meilleur. Donne-nous de regarder vers Jésus, de l'aimer davantage, de hâter ce jour de retrouvailles. Et donne-nous au présent de vivre pour te plaire, pour qu'on puisse être trouvé par toi ce jour-là, en train de faire ce qui te plaît. Nous te demandons ces choses au nom de Jésus lui-même. Amen.
Merci Trévor pour ces paroles d'espérance, basées sur les promesses de la parole de Dieu. Alors notre culte arrive à la fin, et n'oubliez pas, si vous souhaitez rester pour le pique-nique, pour le repas fraternel, donc vous avez la possibilité de le faire librement. Puis je vais vous laisser avec ces paroles, basées sur la Bible aussi, dans la continuité de ce que nous venons d'entendre. Que le Dieu de la paix vous conduise lui-même à une sainteté totale, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irréprochable lors du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui aussi qui le fera. 1 Thessaloniciens 5, 23. Que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse. Et bon dimanche à toutes et à tous et bonne semaine.